Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve après la pub.
De l'imagination d'Atari sont nés des personnages que vous ne pourrez plus quitter quand vous entrerez dans leur jeu. Serez-vous Miss Pac-Man pourchassant les fantômes du labyrinthe? Lutterez-vous contre le terrible mille pattes de Centipède? Ou jouerez-vous avec Phoenix sous le vol menaçant des grands oiseaux? Volerez-vous au secours de votre fiancé en bondissant de liane en liane dans Juggle Hunt? Ou choisirez-vous de défendre la planète dans Galaxian? Atari, c'est déjà 60 programmes de jeux et ce n'est pas fini. Tous les mois, de nouveaux jeux vont naître de l'imagination débordante d'Atari. Atari, les défis de l'imagination.
Rassurez-vous, ce n'est pas la publicité qui accompagne les téléchargements. Nous êtes nombreux à vous plaindre, chers auditeurs, mais une publicité qui date du 16 novembre 1983 pour Atari. Bonjour Olivier Nanipieri.
Bonjour.
Atari, les défis de l'imagination, c'est un bon slogan, non ?
C'est plutôt un bon slogan et je crois que c'est particulièrement adapté en fait à Atari parce que j'ai eu la chance, ou peut-être pas d'ailleurs, d'y jouer, puisqu'à cette époque-là, j'ai effectivement connu le début des premiers ordinateurs personnels. Et je me souviens de la taille des pixels, assez démesurée. Et il fallait vraiment beaucoup d'imagination, pour le coup, pour pouvoir vraiment s'immerger dans le jeu. Vraiment.
Bienvenue en tout cas sur le chemin de la philosophie. Vous êtes avec nous pour ce troisième temps de notre série sur les jeux vidéo. Toute la question est de savoir de quelle nature est ce monde produit par l'imagination de certains. Ce monde qualifié de virtuel, qui emmène loin, bien loin d'ici et bien loin de ce qu'on nomme la réalité. Elle est en route sur les chemins de la philosophie.
4 années se sont écoulées depuis que les races mortelles se sont alliées pour faire face à l'avancée de la Légion Ardente. Azeroth a été sauvé, mais le fragile pacte qui unissait la Horde et l'Alliance n'a pas survécu. Une fois encore, les tambours de guerre résonnent.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulon, auteur d'un essai intitulé « Du réel au virtuel, les paradoxes de la présence », disponible aux éditions L'Harmattan. Et peut-être, Olivier Nanipieri, jouez-vous à World of Warcraft, dont nous sommes en train d'écouter la bande-son ?
Alors écoutez, pour être honnête, je ne joue pas aux jeux vidéo, en revanche, j'ai un des doctorants, donc Jacques Goul-Samson, qui a mené une thèse, là, que je suis en collaboration avec Philippe Bonfils à l'Université de Toulon, et qui mène un travail assez intéressant là-dessus justement, puisque ce qu'il essaye de montrer, en dépit de tout ce qu'on peut entendre, ce discours un peu marketé sur l'immersion dans les jeux vidéo, qu'en réalité il n'y a pas vraiment de distinction entre le réel et le virtuel quand on joue. C'est-à-dire qu'on peut à la fois jouer, à la fois être à son téléphone, chatter, etc. Donc finalement cette distinction entre le réel et le virtuel dans la logique du joueur, elle est assez caricaturale et elle ne répond pas véritablement à des pratiques de joueur.
Votre ouvrage, donc, du réel au virtuel, s'attelle à cette distinction qu'on ne peut pas ne pas convoquer quand on réfléchit sur les jeux vidéo. Donc, c'est pour ça qu'à défaut d'une expérience de votre part, il y aura au moins cette réflexion qui est finalement difficile à mener, rarement menée, et c'est le sens de cette émission aujourd'hui, et qui part d'un constat simple qui est que la réalité virtuelle, il va falloir qu'on la définisse ensemble d'ailleurs, met en doute notre certitude sur ce qu'est la croyance dans la réalité. Parce qu'on peut partir de là, au fond, ce qu'on appelle la réalité, eh bien, n'existe que parce qu'on y croit.
Tout à fait. Alors, je me permettrai de citer cette belle phrase de Philippe K. Dick, qui dit « Le réel, c'est ce qui continue à exister lorsqu'on cesse d'y croire ». Je trouve cette phrase très belle, et en même temps, quand on y réfléchit, elle a une portée, on va dire, un petit peu gênante. Pourquoi ? Parce que K. Dick, ici, qui est un auteur de science-fiction, considère que le réel existe. C'est-à-dire que Pour le coup, je ne suis absolument pas d'accord avec Kadic, puisqu'il me semble que cette réalité, elle est une construction sociale. C'est ce qu'explique effectivement Berger et Luckmann hein, dans cette construction sociale de la réalité, où ils expliquent que finalement, ce que nous appelons le réel, c'est un ensemble de normes qui ont été objectivées et qui font que, au bout d'un moment, on y croit. Alors, si on croit en la réalité, pourquoi ne croirait-on pas à la réalité virtuelle ?
C'est effectivement la question qui se pose. Comment y répondez-vous ?
Mais écoutez, ma réponse, elle est un peu étonnante. C'est un petit peu l'objectif, enfin, le fil conducteur de cet ouvrage où je posais cette question. Peut-on tomber du sommet de colonne virtuelle ? Puisque j'ai fait cette expérience assez déstabilisante où on rentre dans ce qu'on appelle un cave. Un cave, c'est une espèce de deux pièces, on va dire, avec des écrans rétro-projetés. On est en trois dimensions. Et l'objectif, c'est de passer sur des colonnes hautes. Là, elles étaient calibrées à peu près à 35 mètres de hauteur. Et on doit marcher sur des colonnes. Or, le problème, c'est que je suis sujet à ce qu'on appelle vulgairement le vertige, qui est en réalité de l'acrophobie, c'est-à-dire peur du vide. Et donc, je savais pertinemment que c'était une illusion sensorielle. Mmh. Et pourtant, j'ai fait comme tout le monde. J'ai déployé mes bras. Et puis, j'ai avancé le pied sur la première colonne, puis la deuxième. Et là, je suis resté complètement tétanisé en me disant, en moi, ceci n'est pas réel. Et pourtant, mon corps refusait d'avancer. Alors, la différence entre le réel et le virtuel, pour moi, elle est extrêmement tenue dans ce cas-là. J'étais persuadé, enfin mon corps en tout cas, était persuadé qu'il était à 36 mètres de hauteur, alors que mon esprit savait pertinemment que c'était faux. Mais là, pour le coup, c'est le corps qui commande.
Comme si cette expérience rendait dualiste, et j'entends par là, c'est toute une partie de philosophes qui séparent d'un côté le corps et de l'autre l'âme, disant que le corps est source d'erreurs, de tromperies, quand au contraire l'esprit est la faculté de connaître. Descartes, par exemple, pose qu'il y a une différence entre les deux, et que c'est grâce à notre esprit que nous savons où nous sommes et que nous savons ce qui est vrai. Ce que vous dites, c'est que dans cette expérience d'immersion au sein d'une réalité virtuelle, votre esprit même avait perdu toute notion du vrai et du faux.
Tout à fait. Alors, effectivement, ça fait immédiatement penser au dualisme cartésien, mais en même temps, me semble-t-il, je crois que là, c'est l'esprit qui se trompe, en un sens. Alors je renverse un petit peu, il me semble que le corps a raison pour le coup. C'est-à-dire le corps se sent vraiment en danger, véritablement en danger. Et il a véritablement peur de tomber. Et je crois que là, l'esprit essaye peut-être par... alors, j'inverse le processus. Hein, mmh. Essaye finalement de dire, non, on ne sait rien, c'est pas grave. Un peu comme quand on a peur, finalement, si c'est pas grave. Je suis pas certain ici qu'il y a un véritable dualisme ontologique au sens cartésien. Mais qu'il y a, pour faire référence au titre de l'ouvrage, hein, c'est du réel au virtuel, il y a une espèce de continuum. Donc il y a peut-être des niveaux, on va dire, de conscience, puisque le corps n'est pas simplement le corps, c'est déjà une prise conscience de son corps. Puisque je prenais conscience de mon corps à ce moment-là, donc j'ai une partie de moi, effectivement, qui me dit « attention, tu vas chuter », l'autre partie qui me dit « ce n'est rien ». Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on n'est jamais complètement dans le réel ou complètement dans le virtuel. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Montaigne qui dit « quand on danse, on danse ».
Quand je danse, voilà. Je danse. Quand voilà. Je ris, je ris.
Voilà. Donc, mais le problème ici, c'est qu'en réalité virtuelle, on expérimente ces expériences limites. C'est-à-dire qu'ils sont à la frontière entre ce qu'on appelle communion de réel et puis le virtuel. Et faire la distinction entre les deux, c'est très, très, très compliqué.
Alors, puisque vous prenez le contrepoint de manière explicite du texte cartésien, vraiment, même de l'expérience cartésienne d'un corps qui est trompeur quand l'esprit lui-même serait source de vérité, je vous propose d'écouter ce texte issu des méditations métaphysiques et puis on prendra un cas particulier ensuite.
Encore que les sens nous trompent quelquefois, touchant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en rencontre peut-être beaucoup d'autres, desquelles on ne peut pas raisonnablement douter, quoique nous les connaissions par leurs moyens. Par exemple, que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains et autre chose de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi? Si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi? Ce sont des fous et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous venons d'entendre un texte de René Descartes interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin. Et nous sommes en train d'écouter l'ambiance sonore de Whispering Eons, qui est une espèce de grand jeu d'aventure qu'on appelle point and click, hein, qui fait que, mais cette fois-ci, on sort complètement du récit. En fait, la réalité est vécue à travers le casque. C'est une espèce de système d'interaction en réalité virtuelle qui est basé sur le regard, inversant complètement ici l'expérience habituelle du joueur de jeux vidéo, qui est un joueur devant un écran. À l'aide du casque, on produit une espèce d'immersion qui désubjective complètement le joueur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler d'extérieur, d'intérieur, de joueur ou de jeu. Tout est un tout. Et c'est ça qui fait qu'on ne sait plus si on parle de réel ou de virtuel.
Tout à fait, oui. Alors, je me permets de revenir sur ce texte de Descartes qui est très très beau. Enfin, je ne suis pas cartésien, on va dire, philosophiquement parlant. Par contre, ce texte est magnifique, mais il faut le placer dans un contexte qui fait que ce que fait Descartes là, et c'est pour ça que Descartes a une espèce de jeu, on va dire peut-être un peu dialectique, où finalement il nous pousse à croire certaines choses, et puis justement pour mieux ensuite les démonter complètement, quoi. Donc là on est vraiment dans ce bon sens commun sur lequel il va revenir après, parce qu'effectivement il va pouvoir à un moment donné faire disparaître le corps, puis après l'esprit le faire réapparaître. Et ce texte, je trouve, est assez beau. Et en même temps, la limite principale de ce texte-là, c'est cette phrase, les sens nous trompent parfois. Alors évidemment, il y a deux problèmes. C'est que s'ils nous trompaient tout le temps, on n'aurait pas de problème. Là, ils nous trompent parfois, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est ce qu'a souligné Kant, hein, c'est qu'en fait, les sens ne nous trompent pas. C'est notre jugement qui nous trompe.
C'est nous qui ne savons pas interpréter ce que nous envoient les sens comme message.
Oui, tout à fait.
Donc l'erreur est toujours dans l'esprit.
L'erreur est dans l'esprit, oui. Oui. Ce que je vois est réel. C'est un petit peu, en fait, un peu l'approche phénoménologique, hein, qui prime ici. C'est-à-dire que finalement, c'est l'esprit qui décide à un moment donné d'affecter le caractère réel ou illusoire de l'objet qu'il voit. Pour prendre un exemple très simple, lorsque je regarde la fontaine de Duchamp, je peux voir une œuvre d'art ou je peux voir un urinoir. Et donc, je décide soit d'être dans la conscience réalisante où je vois un objet prosaïque, un urinoir, soit dans la conscience imageante, où là, j'imagine effectivement une fontaine. Et donc, je crois que l'esprit, entre guillemets, a ce potentiel-là d'interpréter le réel. C'est pour ça que les sens en eux-mêmes ne nous trompent pas. Ils n'ont pas intérêt à le faire d'ailleurs, puisqu'ils sont directement liés à l'action. C'est un des spécialistes de la réalité virtuelle, Philippe Fouch, hein, qui l'écrit dans un article d'Intellectica avec Malika Ouvré, où il explique, en se fondant sur Bergson, que finalement, toute perception est déjà action. Donc la perception, elle est là finalement pour nous aider à vivre concrètement dans le réel. C'est après notre esprit qui commence à produire des choses et nous trompe.
Ça, c'est dans la perspective cartésienne que vous venez d'expliquer très clairement, mais l'expérience que vous nous avez relatée en début d'émission prouve l'inverse. Quand vous avez un casque de réalité virtuelle, que vous vous voyez en train de tomber, d'être sur une colonne à hauteur de 36 mètres, et que vous voyez votre corps tomber, que votre esprit refuse de faire le pas, alors vous savez que c'est faux. Là, c'est plus du tout l'esprit qui décide, il n'y a aucune décision d'imaginer un jeu, de se décoller de la réalité telle que nous la voyons. L'esprit n'a plus le choix. Est-ce que c'est ça le propre de la réalité virtuelle?
Alors tout à fait. Ce qui caractérise, on va dire, principalement la réalité virtuelle, c'est que peut-être la différence, on va dire, peut-être du jeu vidéo, en tout cas de certains jeux vidéo, c'est cette immersion sensorimotrice, sur laquelle revient Philippe Fouch à plusieurs reprises et qui est vraiment fondamentale. Pour vous donner un exemple, on a au centre de la réalité virtuelle de la Méditerranée, donc qui est dirigé par Daniel Mestre, avec lequel j'avais travaillé, ils ont un dispositif assez intéressant. On a deux portes, donc en réalité virtuelle évidemment, deux portes qui se ferment, très lourdes, avec du son, des portes en fer, virtuelles évidemment. Et le test consiste en fait à approcher ces portes pour faire en sorte que la personne qui doit franchir les portes doit légèrement pivoter. Autrement, elle ne passe pas. Mais évidemment, si elle essaie de passer, elle va aller traverser les portes. Et puis on a toujours des petits malins qui nous disent tout ça, j'y crois pas. Alors ils font le test une fois, et puis on leur demande de reculer, de recommencer. Et au moment où ils s'approchent, on ferme violemment les portes, dans un bruit assourdissant. Et là, ils font un bond. Et là, l'esprit ne contrôle absolument pas. Et ce qui est intéressant en réalité virtuelle, c'est qu'on est capable de toucher des choses qui sont vraiment de l'ordre du corps, on va dire des réflexes de survie. Et c'est pour ça que c'est véritablement sensorimoteur avant d'être simplement cognitif. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que dans l'expérience que vous décrivez, qui est en fait l'expérience des jeux vidéo, on est dans une expérience de réalité modifiée. C'est-à-dire que c'est pas simplement une expérience de pensée, comme celle de Descartes, qui finalement va décider à l'aide de son esprit ou de sa pensée ce qu'il en est. Il peut décider de faire abstraction de son corps ou de faire comme si le monde autour de lui n'existait pas. Tandis que dans le cas des jeux vidéo, c'est une expérience de réalité modifiée, c'est-à-dire que finalement, c'est ce que nous prenons comme l'état normal des choses qui se modifie. Le terme est très important ici. Est-ce que le virtuel ne serait que de la réalité modifiée ?
Alors, en fait, j'ai tendance à dire que... Il y a un terme que j'aime bien, c'est la notion d'infiltration ou d'interstice. En fait, il me semble que, justement, ce qui, vous avez parfaitement raison de le dire, c'est on n'est jamais totalement dans la réalité virtuelle. Cette idée d'immersion totale, c'est un mythe, hein. Ce n'est pas possible. Exemple très simple, lorsqu'on est dans un cave, par exemple, même un cave 6 faces, donc
Qu'est-ce que c'est un cave ?
Un cave, c'est cette espèce de dispositif où on a tous les écrans de rétro-projetés, et on est à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un monde. Alors il y a un cave 6 faces qui existe, mais même dans un cave 6 faces, on a les pieds sur le sol. Donc on est, strictement parlé, on n'est pas en réalité virtuelle, on est en réalité augmentée. Donc on modifie une partie de la réalité. On ne peut pas la modifier complètement, ce n'est pas possible. D'autant plus qu'il faudrait, pour le coup, pouvoir gérer tout ce qu'on appelle la proprioception, tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, et ça, on ne peut pas y toucher. Donc, finalement, la réalité est modifiée dans la réalité virtuelle, mais, et c'est là où ça me semble intéressant, la réalité, elle est modifiée au quotidien. J'en veux, par exemple, ce que disait Pascal sur l'imagination. Donc, en fait, on ne voit jamais des choses. Et là, pour le coup, hein, on ne voit que des signes, comme disait Baudrillard, pour le coup. Mmh. Et c'est pareil dans la réalité virtuelle. Donc, dans le réel et dans le virtuel, on a effectivement toujours l'imagination qui va venir, en fait, combler des trous, qui va se mettre dans l'interstice et qui va modifier la signification des choses. Dans la réalité virtuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut agir de manière beaucoup plus fondamentale au niveau du corps. Et donc, on peut provoquer des choses, même si la personne n'a pas envie de les provoquer par sa propre volonté d'imagination.
Il y a un présupposé très fort dans ce que vous dites, Olivier Lanipierre, qui est que la réalité n'existe pas sans nous. Qu'elle soit réelle ou virtuelle, nous tenons pour réelle ce qui dépend de nous, puisque vous dites qu'on ne pourra jamais intégralement la modifier. C'est un parti pris, pour le coup, là, philosophique au sens fort du terme, qui est de dire qu'il n'y a pas de réalité hors de nous. Ce n'est pas un objet qu'on contemple.
Alors, effectivement, j'ai pris comme référence, d'un côté la phénoménologie, d'un autre côté le socioconstructivisme de Berger et Luhmann, qui, d'un côté comme de l'autre, alors les... admettent qu'effectivement, il n'y a de réalité que pour un sujet qui la perçoit et qui la pense. Or, il me semble qu'on devrait aller un petit peu plus loin et dire que finalement, ce que je perçois, ce n'est pas le jeu qu'il perçoit. Donc là, ça relève effectivement un peu la critique nichéenne du sujet.
Hein. Il disait, jeu, J-E ici.
Oui, hein. Tout à fait. Oui, ouais. C'est le jeu.
Le jeu le vidéo, Lego, mais hein, J-E.
Voilà. Et il y a un auteur qui est assez intéressant là-dessus, qui s'appelle Alfred North Whitehead, dans un magnifique ouvrage qui s'appelle Procès et réalité. Whitehead explique en réalité que le sujet est un produit aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une conscience qui se balade dans le monde, un peu comme la conscience cartésienne, qui vient inspecter ce qui est autour de nous, mais que ce que je suis on va dire, à l'intersection de différentes choses. Comme disait Deleuze, en un sens, hein, le sujet se forme au point de vue. C'est-à-dire qu'il ne préexiste pas au monde. Alors oui, effectivement, on ne peut voir le monde qu'à travers, en tout cas nous, à travers les yeux d'un sujet. Mais en même temps, ce sujet est le produit du monde. Et c'est là où ça devient compliqué en
oui,
réalité.
Oui, parce qu'on ne s'en sort pas.
Parce qu'on ne s'en sort pas, tout à fait.
Ni du sujet, ni du monde. On est doublement prisonnier.
Voilà. C'est pour ça que Merleau-Ponty, dans un de ses derniers ouvrages qui s'appelle « Visible et invisible », utilisait des... une espèce de néologisme en disant, par exemple, « moi le monde » avec des tirets. Parce qu'on ne peut plus distinguer tout ça. Et d'ailleurs, originairement, quand on regarde au niveau du développement de l'enfant, hein, c'est Piaget, je crois, dans « L'enfant et l'interprétation du monde » qui disait « jeune, l'enfant est le monde ». C'est-à-dire qu'il est dans un repère égocentré où le monde varie avec lui. Et en fait, finalement... il me semble que l'objectif de la philosophie, pour le coup, c'est essayer de retrouver un petit peu cette origine-là, d'indistinction entre le sujet et le monde, et donc d'indistinction entre le réel et le virtuel.
C'est ça.
D'indistinction entre ce qui est sérieux et ce qui relève du jeu. Parce que tout ça est originairement, à mon avis, lié, entrelacé.
Jusqu'où peut-on tenir l'affirmation selon laquelle il n'y a pas de réalité virtuelle, puisque ce que nous nommons virtuel est en fait une partie de la réalité dans laquelle nous vivons? C'est ça la conclusion à tirer. Pourtant, il y a bien une différence entre... le monde du jeu vidéo auquel je joue et le monde dans lequel je vous parle ici derrière ce micro aujourd'hui dans un studio. Ou est-ce qu'il n'y en a pas ?
Écoutez, très sincèrement, techniquement parlant, effectivement, il y en a une, puisque en tout cas en première analyse, puisqu'on se dit que dans le premier cas, le réel, on peut vivre dans un monde dit naturel. Dans le deuxième cas, on est dans un monde artefactuel, où effectivement on va créer des machines, etc. Mais la différence entre la nature et l'artifice, elle est philosophiquement, elle ne tient pas non plus. Donc finalement, pour trouver une différence au niveau technologique, ce n'est pas possible. Au niveau du vécu, ce n'est pas possible non plus. Et ça peut se faire avec des dispositifs très simples. Ça peut être un jeu, ça peut être un film, ça peut être un roman.
Bah, si, il y a une façon de le faire. C'est que si je joue à World of Warcraft ou Tomb Raider, je peux mourir et renaître. Alors, si je meurs aujourd'hui devant vous en studio, il y a peu de chances que je renaisse. Ça, c'est une vraie différence.
Alors, c'est vrai. Mais là, vous présupposez que vous, quand vous mourrez, quelqu'un est là pour le constater. Ce quelqu'un-là n'est pas vous. C'est-à-dire que dès l'instant où on dit que, oui, je peux mourir dans le réel, mais je ne peux pas mourir dans la réalité virtuelle, mon personnage virtuel ne peut pas mourir, c'est vrai. Mais en même temps, cette expérience à la première personne, elle est là. Quoi.
C'est une façon de mourir quand même, c'est savoir son personnage mourir, c'est une façon de,
mourir un peu. C'est une façon de mourir, et puis deux, quand je meurs, je ne suis plus là pour le constater, quoi, de toute façon. Mais on présuppose que d'autres sont là pour le voir, et donc attestent de cette réalité à laquelle je n'ai plus accès. On a toujours cette idée que finalement, je peux dire je suis ici ou je suis là, mais parce que j'adopte la perspective un peu de Dieu, je regarde un peu ce qui se passe au-dessus. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est celle du jardin de Dorianji à Kyoto, où dans ce jardin-là, qui est très connu, il y a 15 pierres, et quel que soit le point de vue où on se trouve, on n'en voit que 14. Mais on se dit, il y a 15 pierres. Or, on ne peut jamais les voir. On ne peut les voir que dans la miniature du jardin que l'on trouve dans le temple. Mais ça, c'est le point de vue de Dieu, si on y croit. Je ne peux pas savoir que je suis mort. Donc je peux pas faire de différence entre le réel et le virtuel. Je suis certain que la puissance de certaines expériences au niveau de la réalité virtuelle font que je peux dépérir réellement parce que je suis mort virtuellement. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit sur Facebook des gens décédés, effectivement, qui, entre guillemets, continuent à exister parce qu'ils sont alimentés par leurs proches. Donc, toutes ces frontières entre la vie, la mort, le réel, le virtuel, le jeu, le sérieux, tout ça, ça se brouille énormément.
Alors, prenons un autre exemple, une autre façon peut-être de distinguer la réalité du jeu vidéo et la réalité de ce studio. Tenons-nous-en là. Si je joue à un jeu vidéo, il y a certaines règles que je dois respecter. Et je sais que quelqu'un, un être humain, mais ça pourrait être un robot d'ailleurs, mais quelqu'un a inventé ce jeu, qu'il correspond à un schéma. On parlait du dieu leibnizien hier, celui le dieu qui a fait passer à l'état de réel le meilleur des mondes possibles selon des critères objectifs, rationnels et moraux. Eh bien, le jeu vidéo, c'est ça. Ça pourrait être le meilleur des mondes possibles dans lequel je joue. La réalité dans laquelle je suis ici avec vous, c'est pas forcément le cas. Les règles du jeu, je les connais pas. En tout cas, je peux facilement les enfreindre. Je peux faire des choses qui n'ont pas été pré-programmées par un individu qui déciderait de tout. C'est une grande différence. Dans un cas, il y a un concepteur et un sens et des règles à suivre. Et dans l'autre, non.
Alors, effectivement, là, pour le coup, je vous rejoins dans le sens où je ne crois pas non plus en l'existence d'un concepteur.
Donc, oui, c'est ça, parce que ça peut rendre complotiste, quand même, votre point de vue.
Tout à fait. Mais là, je vous rassure là-dessus, je ne suis pas complotiste.
Mais libre à vous.
Par contre, ce qui me semble quand même assez intéressant, c'est que vous parliez du dieu leibnizien, effectivement, qui crée, on va dire, un monde en fonction d'un idéal moral rationnel. C'est vrai. Mais en même temps, le monde dans lequel nous vivons, il n'a pas des règles, il a des lois. Et j'entends là, pour le coup, des lois scientifiques. Je ne peux pas transgresser toutes les lois. Je ne peux pas me dématérialiser d'un coup. Je ne peux pas m'envoler.
Je ne peux pas décider de toucher le plafond. Là.
Voilà. Alors, si j'ai dit aux auditeurs qu'actuellement, je suis à 2 mètres au-dessus du sol, personne ne va me croire. Ils auront raison. Parce qu'il y a des lois qui sont plus fortes que les règles. Puisque les règles, par définition, elles peuvent être changées. Les lois, difficiles.
Alors, on va passer la parole à un philosophe, auteur que vous avez cité, et qui, lui, a pour thèse que finalement, ce qu'on appelle la réalité est vide, et que le virtuel, le monde virtuel, aurait pillé la réalité, mais pour le meilleur. Écoutez Jean Baudrillard, c'était en 2005, au micro de Marc Vincher sur France Culture.
Sous prétexte qu'on parle du virtuel, qu'on analyse le virtuel comme un excès de simulation, à la limite un au-delà même, une montée en puissance du simulacre, etc., la fin des temps ou l'apocalypse. Ce n'est pas une apocalypse et c'est pas du tout un pessimiste. C'est au contraire une stratégie fatale, peut-être, ça d'accord, d'aller voir jusqu'au bout de cette virtualité, d'aller même jusqu'au... vraiment, de la pousser même au-delà de ce qu'elle est, techniquement aujourd'hui, Parce que au-delà, je pense que quelque chose peut avoir lieu dans un vide créé par la virtualité elle-même, ce vide de la réalité. Qu'est-ce qui peut avoir lieu là-dedans? Et peut-être alors, même pour la pensée, une singularité, une radicalité de la pensée, enfin libérée de toutes ses fonctions réalistes. Enfin, j'en sais rien, moi.
L'hologramme n'a pas l'intelligence du trompe-l'œil, qui est celle de la séduction, de toujours procéder selon la règle des apparences, par allusion et ellipse de la présence. Il verse au contraire dans la fascination, qui est celle de passer du côté du double. Si l'univers est ce dont il n'y a pas de double, pas d'équivalent en miroir, alors nous sommes déjà, avec l'hologramme, virtuellement dans un autre univers, qui n'est que l'équivalent en miroir de celui-ci. Mais quel est celui-ci ? L'hologramme, celui dont nous avons toujours déjà rêvé, mais ceux-ci n'en sont que de pauvres bricolages, nous donne l'émoi, le vertige de passer de l'autre côté de notre propre corps, du côté du double, clone lumineux. La course au réel et à l'hallucination réaliste est sans issue, car quand un objet est exactement semblable à un autre, il ne l'est pas exactement, il l'est un peu plus. Il n'y a jamais de similitude, pas plus qu'il n'y a d'exactitude. Que se passe-t-il de l'autre côté de la vérité, non pas de ce qui serait faux, mais dans ce qui est plus vrai que le vrai, plus réel que le réel? Des effets insolites certainement, et sacrilèges, bien plus destructeurs pour l'ordre de la vérité que sa négation pure.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. C'est le troisième temps de notre série sur les jeux vidéo. Et aujourd'hui, en studio, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Nani-Pierry, qui est maître de conférence à l'Université de Toulon et l'auteur d'un ouvrage intitulé « Du réel au virtuel, les paradoxes de la présence ». On vient d'entendre d'abord la voix de Jean Baudrillard et puis un extrait de son texte « Simulacre et simulation » qui était écrit bien avant l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques mois, et qui pourtant, nous mettait, c'était un cas particulier génial pour expliquer ce qu'il est en train de décrire. Hein. L'hologramme n'a pas l'intelligence du trompe-l'œil, qui est celle de la séduction, mais il verse dans la fascination et produit, et là on peut faire le parallèle entre hologramme et jeu vidéo, un type de réalité qui n'est pas la réalité virtuelle, qui est une réalité encore plus réelle que le réel, encore plus vraie que le vrai, qui est ce que Baudrillard nomme l'hyper-réalité. On pourrait l'appliquer aux jeux vidéo, Olivier Nani-Pierry.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est dans Le Crime Parfait où Baudrillard a cette phrase qui est assez belle. Il dit en fait, c'est comme si les choses avaient avalé leur miroir. Et là, effectivement, la réalité disparaît au profit d'une autre réalité qu'effectivement qu'il appelle l'hyper-réalité. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, on n'est pas du tout dans l'illusion. Enfin, l'hyper-réalité, c'est pas l'illusion, quoi. C'est pas juste ça. C'est effectivement beaucoup plus que le réel. Et peut-être aussi, c'est beaucoup plus que le réel parce qu'il y a cette dimension ludique, ou pour utiliser un terme peut-être plus approprié, hein, cette expérience optimale, ce flow, hein, ce qui fait que je suis pris complètement dedans.
Flow, c'est F-L-O-W.
Voilà, tout à fait.
Flux, enfin,
donc, l'auteur est un nom imprononçable, hein, c'est Mikhail Csikszentmihalyi, mais je suis incapable de le prononcer, c'est tellement compliqué, mais en fait, le concept de flow, c'est un concept qui est assez utilisé dans les jeux vidéo. Et en fait, qui explique cette expérience optimale, qui est un peu calquée sur les sportifs, par exemple, qui à un moment donné, au niveau de la concentration, vont faire un peu le vide autour d'eux. Et vont à la fois s'immerger complètement, mais pour quelque chose de très, finalement, de très pratique, hein, de très concret. Hein. C'est pas du tout, on n'est pas dans la méditation, là. Et dans le jeu vidéo, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se déconnecte pas du tout du réel, en tout cas de la fonctionnalité du réel. C'est-à-dire qu'on a une tâche à accomplir, on a un challenge, on a de la communication, parfois. Donc, en fin de compte, assez étrangement, ce passage par le virtuel nous ramène d'une manière beaucoup plus puissante dans la réalité que si on dit simplement, voilà, ceci est le réel. Donc cet aspect ludique, ce jeu, fait qu'à ce moment-là, on a un retour plus violent dans le réel, bizarrement.
Parce que ça mobilise toutes nos perceptions, ça demande une concentration très précise et ça nous fait accomplir des gestes qu'on n'accomplirait pas sans cette expérience.
Très probablement, oui. C'est-à-dire qu'à la fois, ça nous coupe du réel, Et donc, ça nous permet de nous centrer sur des choses qui nous semblent pour le coup fondamentales. Et c'est pour ça que ça produit cet effet-là, assez bluffant, qu'on peut pester, s'énerver, on peut très bien jeter violemment son joystick réellement, alors que finalement, ça n'aura aucune conséquence directe sur l'écran d'ordinateur.
On a un son à vous faire écouter, puisque vous prenez l'exemple d'un enfant, par exemple, ou d'un joueur qui s'énerverait contre son clavier. Peut-être connaissez-vous les vidéos, elle est en ligne. Écoutez, c'est vraiment effrayant. Voilà, on a quitté l'adolescent fou qui explose son clavier sur son bureau. Je vous invite à regarder la vidéo. C'est vraiment effrayant parce qu'en plus, ça, disons que ça corrobore tous les clichés autour du jeu vidéo qui rendrait les enfants fous parce que complètement déconnectés de la réalité. Et nous sommes à bord désormais d'un avion au sein de Flight Simulator, qui est un jeu qui crée pour le coup les conditions absolument réelles d'un pilote d'avion. Nous sommes dans l'avion en immersion totale. Et c'est ce terme-là sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, parce que vous en parlez, vous l'employez beaucoup dans votre livre, Olivier Lanipieri, le terme d'immersion. Finalement, il faut aller encore plus loin que le simple fait de dire que le jeu vidéo nous immerge dans une autre réalité. Si je vous suis bien, en fait, c'est que le jeu vidéo nous immerge dans notre propre réalité. Il n'y a pas de différence entre la réalité dite réelle et la réalité virtuelle. Au contraire, le jeu vidéo vient accroître et intensifier notre expérience au sein du réel et nous montrer qu'en fait, tout est affaire d'immersion.
Tout à fait. Alors, en plus, ça se fait en deux temps. Ça se fait effectivement, peut-être un peu moins pendant le jeu, mais surtout après le jeu. C'est un phénomène qui est assez intéressant. Il y avait un article qui avait été produit là-dessus sur ce qu'ils appellent l'effet de inverse presence. C'est lorsque finalement, on évalue la réalité à l'aune de la virtualité. C'est ce qui se passe dans des choses très classiques. Quand on dit, par exemple, d'une fleur artificielle, d'une fleur réelle, naturelle, on dit elle est tellement belle qu'on dirait une fleur artificielle. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, on inverse les choses et qu'on va juger le réel à partir de notre expérience du jeu ou du virtuel. Et c'est ce qui est assez intéressant parce que ça va complètement modifier le réel. Mais pour le coup, c'est ce qui se passe, ce que j'évoque dans l'ouvrage, ce qui se passe dans le roman. Parce que lire la description d'un lieu dans un roman va modifier considérablement la perception que nous en avons. Je me souviens que j'avais eu la chance de voir le pavillon d'or à Kyoto, et au préalable, pour m'y préparer, j'avais lu le pavillon d'or de Mishima, et donc j'imagine que je n'ai pas vu le pavillon d'or tel que je l'aurais vu si je n'avais pas lu Mishima, et j'imagine que si dans un jeu vidéo il y a eu le pavillon d'or, eh bien la personne n'aurait pas vu le pavillon d'or de la même manière. Donc finalement, le jeu vidéo, la réalité virtuelle et de manière générale tous ces procédés-là un peu immersifs nous renvoient au réel d'une manière particulière, effectivement le transforment.
Et donc, qui est effrayant, voilà. C'est plutôt la transformation du réel plutôt que la fuite hors d'un réel illusoire.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de, oui, effectivement, vous avez dit le mot, il y a pas de fuite, ça c'est caricatural. Les gens ne fuient pas. Le problème, c'est que ça a un impact direct parce que si j'entre dans un jeu, je vais peut-être à un moment donné cesser de m'alimenter réellement. Donc, on dit que c'est une fuite.
De même quand on travaille beaucoup.
Mais exactement. C'est exactement ça, quoi. Donc, il y a pas de fuite, effectivement. Il y a une espèce de plongée, on dit d'immersion. Mais en même temps, cette immersion, comme je le dis, et c'est important, elle n'est jamais totale. Elle n'est jamais totale pour deux raisons, du point de vue du sujet. Parce que le sujet emporte avec lui son expérience qu'on va appeler réelle dans le jeu. Et puis qu'il va emporter ensuite son expérience du jeu dans le réel. Et d'un autre côté, l'environnement du jeu, il est poreux. C'est-à-dire que des choses de l'extérieur vont pouvoir venir gêner à un moment donné, ou au contraire accroître l'immersion dans le jeu. Donc c'est-à-dire qu'un environnement, c'est une thèse qui me semble importante, n'est jamais clos. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'immersion totale possible. Et même le réel, hein, on dit souvent effectivement que la réalité est un environnement clos, qu'elle est tautologiquement immersive. Ben non, parce qu'on n'est jamais dans la réalité, on n'est jamais dans le jeu vidéo, on n'est jamais dans le virtuel. Il y a toujours des passages. D'où cette idée, moi, qui me tient vraiment à cœur, cette idée qu'en fin de compte, ce ne sont pas les environnements qui sont immersifs, c'est l'homme qui est immersif. C'est-à-dire que ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes à différents niveaux des êtres immersifs. C'est-à-dire que nous faisons le lien entre des environnements. Et lorsque ce lien, effectivement, se fait régulièrement, on ne voit plus vraiment la différence. Lorsqu'il se fait de manière moins fréquente, effectivement, là, on se dit, tiens, là, c'est un jeu. Mais parfois, on ne voit plus la différence. Et c'est lorsqu'effectivement, ce lien entre dans les normes sociales, est accepté par tous. Et au bout d'un moment, effectivement, la confusion entre le réel et le virtuel n'existe plus, parce qu'à mon sens, elle n'existe pas.
C'est-à-dire, ou plutôt, on pourrait le dire autrement, la question, ce n'est pas qu'est-ce que le virtuel, mais qu'est-ce qui est virtuel ? Ce qui est une manière de s'interroger sur le statut de la réalité que nous avons en face de nous.
Tout à fait, voilà. Et en fait, bizarrement, hein, cet ouvrage, et puis les travaux que je continue à mener, me conduisent à dire que cette distinction entre réel et virtuel, elle vend, elle permet de vendre, hein, en termes de marketing, c'est intéressant, mais elle ne me semble pas si pertinente que ça.
Eh ben, je vous prends au mot, voici un son, vous allez voir quelqu'un, un athlète de haut niveau qui s'apprête à remporter un championnat, mais il a juste une particularité, écoutez.
Allez Brian, concentrez, tout vite derrière. Voilà, prends ton temps. Oh. Allez.
Je joue à FIFA depuis peut-être 4-5 ans maintenant. C'est tout simplement un ami qui m'avait conseillé de me renseigner parce qu'il trouvait que j'étais plutôt bon. Donc voilà, je me suis renseigné, j'ai suivi son conseil. J'ai fait des petites compétitions en ligne d'abord sur des sites avant de me faire repérer par des structures. Et voilà, finalement, j'en suis arrivé à jouer des compétitions comme celle-là. Je ne le considère pas comme un sportif de haut niveau, mais comme un e-sportif de haut niveau, je pense. Ça devient une discipline à part entière, je pense, maintenant. Donc ouais, je me considère comme un e-sportif de haut niveau. C'était un match super tendu. Je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir gagné, mais bon, c'est le jeu. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire à part bien jouer à lui. C'est vrai que cette défaite a fait mal parce que c'était mon objectif sur la saison. Mais bon, après, c'est FIFA, je reviendrai l'année prochaine ou dans 2 ans, pourquoi pas réessayer. Mais ouais, mon objectif, c'est d'être champion du monde un jour, j'aimerais bien, ouais.
Brian Savary était le champion de France aux Jeux FIFA en 2005. Quelle différence entre cet athlète, qui est donc un champion du monde de sport, mais de sport virtuel, d'e-sport, on dit, hein, E-sport, I, comme virtuel justement, et un champion de foot qui serait champion du monde, c'est-à-dire au sens où il aurait touché un vrai ballon avec ses vrais pieds. Est-ce que vous faites une différence entre les deux ou pas, Olivier Nanipieri ?
Alors écoutez, initialement, on pourrait faire une différence, c'est-à-dire qu'il y en a un effectivement qui joue entre guillemets réellement, et l'autre...
Réellement.
Oui, enfin qui joue au foot, pardon, réellement, et l'autre qui va jouer effectivement devant son écran d'ordinateur. Maintenant, où la différence commence à devenir un peu plus... un peu moins importante, c'est que dans les deux cas, il a des spectateurs, il a même des commentateurs, puisque j'ai vu ça effectivement, des gens qui commentent des matchs de foot virtuels. Et là, ça devient intéressant, parce que je crois que cette dimension sociale, et on revient encore une fois à Berger et Luckmann, où ils disent que finalement, ce qui compte, c'est le caractère institutionnel de notre discours sur la réalité. Et là, si d'autres que moi partagent ce sentiment que oui, il est vraiment en train de jouer au foot, lui donne une valeur, alors à partir de là, oui, il va devenir un sportif de haut niveau. Même si, dans les faits, on pourrait peut-être en douter, initialement. Mais je crois que cette dimension sociale est fondamentale, cette reconnaissance que quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui va jouer à un jeu est aussi un sportif de haut niveau.
Un athlète virtuel.
Tout à fait.
Enfin d'ailleurs, pas virtuel, c'est là où, pour le coup, c'est vraiment en cohérence avec ce que vous nous avez dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est pas moins réel d'être champion du monde de foot, enfin disons au jeu FIFA, que d'être champion du monde du foot avec un vrai ballon. Tous les deux sont réels.
Tout à fait. Exactement.
Pourquoi faudrait-il distinguer les deux ?
Il faut le distinguer. Enfin, moi, je suis pas d'avis de le distinguer, mais on le fait parce qu'encore une fois, il me semble que nous vivons dans une société où nous avons besoin de faire un peu rêver les gens, et c'est normal. Donc, on les fait rêver en leur disant, voilà, il y a le réel, et puis bon, vous avez quand même le virtuel, hein, qui vous permet de vous échapper, d'aller voir ailleurs, de vous divertir. Hein, c'est ce mythe du divertissement. Or, dans les faits, je crois que on n'est pas dans le divertissement. Ce joueur-là ne se divertit pas. C'est Et même quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, c'est pas du divertissement, c'est pas simplement un petit loisir que l'on fait comme ça. C'est extrêmement sérieux. Et encore une fois, je reprends la métaphore des enfants, hein, mais les enfants jouent très 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 sérieusement. Et c'est exactement la même chose.
Mais pas que les enfants d'ailleurs.
Non, pas que les enfants, c'est vrai. Mais souvent ça nous fait rire parce qu'on voit les enfants jouer très sérieusement en disant « mais ce ne sont que des jeux, ce ne sont que des enfants ». Mais effectivement, lorsque nous-mêmes nous jouons très sérieusement. C'est vrai.
Les enfants sont capables de créances littéraires, bien sûr, quand l'art du conteur est suffisant pour la produire. On a appelé cet état d'esprit « suspension consentie de l'incrédulité ». Mais cela ne me paraît pas être une bonne description de ce qui se passe. Ce qui arrive vraiment, c'est que le conteur se montre un sous-créateur qui réussit. Il fabrique un monde secondaire dans lequel l'esprit peut entrer. À l'intérieur, ce qu'il relate est vrai. C'est-à-dire que cela s'accorde avec les lois de ce monde. On y croit tant que l'on se trouve, pour ainsi dire, dedans. Mais dès qu'intervient l'incrédulité, le charme est rompu. La magie, ou plutôt l'art, a échoué. On est alors ressorti dans le monde primaire et l'on regarde du dehors le petit monde secondaire avorté. Si la bienveillance ou les circonstances vous obligent à rester, l'incrédulité doit être suspendue ou retenue, sans quoi elle deviendrait intolérable d'écouter ou de regarder. Mais cette suspension de l'incrédulité n'est qu'un substitut de la chose authentique, un subterfuge dont on se sert quand on condescend à jouer ou à faire semblant, ou quand on essaie, plus ou moins volontiers, de trouver quelques qualités dans l'œuvre d'un art qui, pour nous, a échoué. On suit ce que vous dites, Olivier Nannipieri. Si la distinction entre réel et virtuel ne tient pas, ou est le résultat d'une réticence que nous avons, nous autres êtres humains, à accepter qu'en fait la réalité est beaucoup plus large que ce qu'on croit, que ce qu'on tient pour virtuel n'est qu'une modalité du réel. S'il n'y a pas vraiment de différence entre l'e-sportif et le sportif, et si l'univers des jeux vidéo est loin d'être un jeu ou un divertissement, mais au contraire une expérience d'immersion au même titre que notre expérience dans la réalité, alors, il faut remettre en question toute forme de partition entre l'expérience réelle et l'expérience, disons, artistique, ou même l'expérience d'imagination. Je viens de lire un extrait de Tolkien sur le conte de fées, dans lequel il emploie cette formule restée célèbre de suspension consentie de l'incrédulité. Quand on ouvre un livre, on fait confiance au narrateur et on croit tout ce qu'il va nous raconter. On ne se pose pas la question du vrai et du faux, on le croit. C'est le terme de croyance avec lequel on a commencé cette émission. Que reste-t-il de ce pacte entre un lecteur et un auteur, entre un joueur et un concepteur peut-être, dès lors que vous abolissez la distinction entre le réel et le virtuel?
Bien, en fait, ce pacte, il est encore une fois social. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un auteur ou un concepteur qui est derrière. C'est un ensemble social qui fait qu'à un moment donné, on y croit. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui dans une société où on admet qu'un roman nous permet de nous évader, qu'un jeu vidéo nous permet de nous immerger. Eh bien, je crois qu'il serait difficile d'y croire, entre guillemets. Ça fait partie des choses, effectivement, qui peuvent nous sembler un peu déroutantes en fonction des générations. C'est une question de génération, très probablement. Et aujourd'hui, effectivement, on admet cette idée que je peux faire semblant, effectivement, de croire ou croire réellement à ce que je perçois, ce à quoi je joue, même si ça n'existe pas, si nos parents nous ont appris que ça n'existait pas. Et donc je crois que c'est peut-être il y a un effet ici générationnel probable qui fait que aujourd'hui cette suspension on va dire de l'incrédulité elle est peut-être mieux acceptée probablement.
Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre croire en un jeu vidéo et croire en la réalité. C'est ce que je veux dire, c'est que dès lors qu'on la suspension d'incrédulité se fait plus facilement, comment expliquer le recours au jeu finalement, puisque si la réalité dans laquelle nous vivons est elle aussi virtuelle ou incertaine que celle des jeux vidéo, pourquoi jouons-nous aux jeux vidéo? on pourrait jouer dans notre propre vie, c'est ça que je veux dire.
Alors tout à fait. Je crois qu'une des différences fondamentales avec, entre le jeu et, parce qu'on va appeler ça le réel ou la vie quotidienne, c'est que le jeu est caractérisé, encore une fois, j'utilise comme référence cette notion de flow, est caractérisé par un ratio entre mes compétences et le challenge. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des défis. Dans le réel, on n'en a pas tout le temps dans notre vie professionnelle ou personnelle. Là, pour le coup, on a cette possibilité effectivement de se dépasser. Et surtout, parfois, on va dire à moindre frais et à moindre risque, en tout cas le croit-on. Je crois que la différence, elle est peut-être là. Dans cet aspect, on va dire, qui n'est pas simplement ludique, mais il y a un aspect vraiment de challenge, de dépassement, qui me semble caractériser véritablement le jeu vidéo. Pas dans le, encore une fois, ce n'est pas son caractère virtuel ou illusoire qui le caractérise, mais vraiment, je crois, cette dimension de tâches à accomplir en fonction de mes compétences, cette compétition, ces choses-là. Il me semble que c'est peut-être sociologiquement ce qui me semble le plus important.
C'est pourtant très présent dans notre vie professionnelle et même quotidienne. Hein, se voir assigner des tâches qu'il faut arriver à accomplir, essayer de dépasser des objectifs, c'est même plutôt ce qu'on reproche à l'univers professionnel contemporain.
C'est
peut-être
vrai,
ultra compétitif.
C'est vrai, mais tout ceci, c'est un discours qui concerne principalement des personnes qui vivent qui travaillent dans un secteur professionnel, niveau peut-être cadre, dirigeant, responsable. C'est-à-dire des gens qui effectivement ont cette culture de la compétition. Mais pour la plupart des gens, cette culture de la compétition leur est pratiquement étrangère en fait. C'est pas dans leur travail qu'ils vont se réaliser. Ils vont se réaliser ailleurs, peut-être dans le sport ou dans d'autres choses. Mais je crois que c'est un microcosme qui pense que finalement cette vision-là, elle est commune à tous et je crois qu'elle est finalement très peu partagée. Je ne sais pas si d'ailleurs ces personnes-là qui considèrent les challenges, la compétition comme une part même de leur activité professionnelle jouent moins que les autres, probablement pas.
Ce serait intéressant de voir.
Mais peut-être que ce serait intéressant de voir effectivement quel type de jeu, selon quelle modalité. Est-ce qu'ils abordent le jeu de la même manière, puisque manifestement, ce besoin de compétition et de challenge, ils l'ont déjà peut-être au quotidien. La différence, et là je la reprends peut-être, on est tout à l'heure, c'est que là, dans le jeu, il y a des règles. Dans le monde professionnel, souvent, hélas, il y a des règles, mais elles ont force de loi. Et donc, on a du mal à les transgresser. Dans un jeu, on peut toujours quand même un peu transgresser, quoi, me semble-t-il.
Et il y a un dernier aspect aussi, c'est que dans la plupart des jeux que nous avons évoqués aujourd'hui, même pour revenir à celui qui a ouvert cette émission, World of Warcraft, c'est un jeu à plusieurs. C'est-à-dire, vous parlez de l'importance de la compétition, de ce goût pour le dépassement de soi que parfois la vie quotidienne ne permet pas de satisfaire, d'où peut-être le fait de se reporter vers les jeux vidéo. Et il y a aussi le désir peut-être de créer une forme de communauté. Et là, pour le coup, elle n'a absolument rien de virtuel. C'est pas parce qu'on rencontre pas les personnes avec lesquelles nous jouons que la communauté n'existe pas.
Alors, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Donc, ils fonctionnent par guildes. Hein. Ce sont des communautés qui peuvent être de taille vraiment différente. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ces communautés, elles peuvent certes ne pas se rencontrer. Mais dans les faits, elles utilisent plusieurs canaux de communication qui ne sont pas simplement les canaux proposés par le jeu, puisqu'on peut ajouter des fonctionnalités différentes. Et puis, dans nombreuses communautés, ils se rencontrent, ils font des repas annuels, par exemple. Et c'est ce qui est intéressant, encore une fois, c'est un peu le mythe de ce qui s'est passé avec tout ce qui est enseignement à distance, des choses comme ça. Mmh. On en revient effectivement de tout ça, parce que ce présentiel, cette présence-là, qu'on appelle réelle, hein, un peu tactile, voir les gens face à face, n'est pas exclu du jeu. Pas du tout, quoi. Alors oui, les gens peuvent ne pas se rencontrer, mais en même temps, à un moment donné, ils ont le désir de le faire. Et ça ne les empêche pas de jouer, ça ne les empêche pas d'être, au moment où ils sont dans le jeu, leur avatar. Mais en même temps, ils sont le joueur, et ce joueur peut, par d'autres moyens de communication, parler de joueur à joueur pendant qu'il joue d'avatar à avatar. Et donc on a une espèce d'entrelac, de chiasme entre le réel, le virtuel, ce qui appartient au jeu, ce qui n'appartient pas au jeu. Je crois qu'on retrouve encore cette idée-là.
On va se quitter avec une chanson qui a l'avantage de nous mettre dans la peau de quelqu'un, ce qu'on appelle un geek, donc quelqu'un qui préfère le jeu vidéo à toute autre chose sur Terre, y compris parfois même la personne avec laquelle il vit. Écoutez cette chanson qui raconte justement ce qui se passe dans la tête d'un geek, qui serait, parce qu'il a le droit lui aussi, amoureux.
Tonight, gonna make you happy tonight.
Oh, sugar,
give my love to you. Oh baby, gonna make you feel so right. Gonna make you make you happy. Ooh, yeah. Spend some time with you. Do the things you want me to. Gonna make love. Gonna make some sweet, sweet love. So get ready.
Just gotta finish this level.
Voilà, je t'aime passionnément, mais il faut juste que je finisse le prochain niveau avant de te rejoindre, mon amour. Voilà, c'est Tripod qui chante cette chanson. Un grand merci à vous, Olivier Nanipieri, d'être venu nous parler aujourd'hui.
Je vous remercie.
De jeux vidéo, du réel au virtuel, les paradoxes de la présence. Votre livre est disponible aux éditions L'Harmattan.
You move a little to the left, baby. I can't see the TV. Hey. Baby, I can't wait till we start.
It's just that the save points are quite far apart. This game, baby. Do 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 do. Together with
map reading skills.
Oh,
turn the lights down low.
Turn the lights down just a little bit lower, baby.
Turn the lights down low.
Turn the lights down low.
Turn the lights down low.
It's just that it helps me feel like I'm in a spaceship.
Sweet, sweet love, honey, sugar, baby. Ooh, you look so great to me. Have you brushed your teeth yet? Take your time, no hurry. It's just that I'm not tired. Are you tired? I'll see you in the bed then. You might want to take a book.
On imagine ce qui se passe sur scène. Ce sont les Tripod, True Geek. La version live de cette chanson, les références seront en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Sur France Culture, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philosophie de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Ravie de vous retrouver à ce micro.
Également.
Dites-nous, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien d'une vague, c'est une vague de publications d'essais philosophiques autour du thème de la gauche. Alors j'en cite quelques-uns. Il y a eu l'idée du socialisme d'Axel Honneth, qu'est-ce qu'un gouvernement socialiste de Franz Fischbach, c'était il y a déjà quelques mois, ou encore, c'était en mars, après l'émancipation, trois voix pour penser la gauche, de Judith Butler, Ernesto Laclau et Slavoj Žižek quand même. Donc c'est l'occasion pour moi de demander à un autre auteur, c'est le sociologue Razmi Kecheyan, auteur de l'excellent ouvrage « Hémisphère gauche, une cartographie des nouvelles pensées critiques ». Mais pourquoi un tel plébiscite, en tout cas théorique, pour la gauche et le socialisme ?
La cause principale, c'est que les courants politiques, les partis politiques traditionnels qui ont structuré la gauche pendant tout le XXe siècle, à savoir d'une part la social-démocratie autour des partis socialistes et aussi les partis communistes, eh bien sont dans des crises profondes, l'un et l'autre, des crises qui sont certainement pas terminales, puisque ce sont des partis politiques qui ont connu des crises par le passé, et qui sont quand même néanmoins des crises profondes et sans doute de longue durée. Et donc le paradoxe veut que c'est précisément à ce moment-là que, sur le plan intellectuel, dans le champ intellectuel, de plus en plus d'ouvrages, de plus en plus d'articles également, se mettent à interroger eh bien, ces notions de socialisme, de communisme, d'utopie, de société alternative au capitalisme dans lequel nous vivons. Les deux sont certainement liés. C'est parce que ces courants politiques traditionnels sont entrés dans des crises profondes que, eh bien, d'une certaine manière, la signification du vocable socialisme et la signification du vocable communiste, eh bien, ont en quelque sorte été libérés, se sont émancipés de ces courants politiques et se sont mis à faire fonctionner l'imaginaire aussi bien des mouvements sociaux, des mouvements politiques et des manifestants que des théoriciens et théoriciennes critiques.
Dans son ouvrage, Razmi Kecheyan dresse donc, c'est le sous-titre de son livre, une cartographie de ces nouvelles pensées critiques. C'est une sorte de boussole pour se repérer repérer à travers le flou de cette crise des partis de gauche, mais aussi pour se repérer à travers la diversité de ses pensées, de Tony Negri et la joie d'être communiste, à Achille Mbembe et l'afropolitanisme, sans oublier la critique du capitalisme et les réflexions bien sûr sur les multiples identités jusqu'ici invisibles.
Il y a notamment un élément sur lequel j'insiste et qui me paraît être central dans les pensées critiques aujourd'hui. Pendant tout le XXe siècle et aussi le XIXe siècle, la classe ouvrière, ce qu'on appelait parfois le prolétariat, a été tout à fait centrale comme sujet de l'émancipation. Mais en même temps, pendant tout le XXe siècle, de nouveaux acteurs sont venus compliquer ce schéma de base, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant dans la conjoncture présente, c'est qu'il n'existe plus vraiment de sujet de l'émancipation dominant, comme a pu l'être autrefois la classe ouvrière, si bien que les acteurs, les sujets de l'émancipation, ont tendance à proliférer. Et par conséquent, pour la gauche du XXIe siècle, l'un des enjeux principaux, ce sera de penser l'articulation entre ces différents acteurs. C'est-à-dire faire en sorte que des luttes très différentes les unes des autres, les luttes féministes, les luttes écologistes, les luttes pour la justice sociale et pour la redistribution économique, eh bien que tout ça puisse converger d'une certaine manière vers non pas nécessairement un modèle unique qui intégrerait de manière presque autoritaire l'ensemble de ces acteurs, mais qui permette une certaine efficacité des luttes basée sur l'articulation des revendications. Voilà, je crois que c'est là vraiment l'enjeu de la réinvention d'une gauche au XXIe siècle.
Mais concrètement, que peuvent ces théories pour la politique? Les politiques écoutent-ils vraiment ce que disent ces penseurs critiques entre Podemos en Espagne et les Insoumis en France? Rasmik Kocheyan en est persuadé. Il y a même de quoi être optimiste, m'a-t-il dit. Mais alors, dans quel sens être optimiste? Quelles sont les réponses apportées par ces nouvelles théories à la gauche?
La catégorie elle-même de gauche est une catégorie qui entre en crise et l'un des enjeux des débats qui ont cours aujourd'hui, c'est de se demander si cette catégorie, elle est toujours opérante, si elle a toujours un sens aujourd'hui. Et donc là, il y a deux catégories de réponses possibles. La première catégorie de réponse consiste à dire que la gauche est une notion qui était fondamentalement une notion du XXe siècle, du XIXe et XXe siècle, et que nous avons basculé dans autre chose avec le XXIe siècle. En d'autres termes, cette catégorie qui a été structurante dans le champ politique tout au long du XXe siècle est une catégorie désormais dépassée qu'il faut remplacer par autre chose. La question demeure de savoir quelle est cette autre chose, évidemment. Et puis il y a d'autres types de pensées critiques qui considèrent que, bien entendu, la gauche doit être renouvelée, par exemple au contact de la question environnementale, de la question écologique, qui est une question nouvelle à bien des égards, mais que ce sera d'une certaine manière toujours la gauche, que nous entrons dans une étape nouvelle, dans une ère nouvelle où la gauche va devoir se réinventer, mais où elle sera toujours la gauche.
Garder la gauche ou pas, voilà, il faut lire le livre de Rasmik Kocheyan pour faire son choix. Ce livre s'appelle « Hémisphère gauche, une cartographie des nouvelles pensées critiques ». Je le recommande chaudement. Il est reparu cette année aux éditions La Découverte en poche.
Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne et aussi à télécharger et podcaster en vous rendant sur le site du Journal de la Philo.
Tout simplement.
À demain. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Pauline Vermeren, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Jacques Caise avec un K Uber à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur les jeux vidéo. Demain, je recevrai Alexis Blanchet qui viendra vous raconter des histoires. Ces histoires que nous racontent les jeux vidéo sont-elles identiques à celles que l'on lit dans les livres ou que l'on voit au cinéma? Réponse demain à 10h. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Sur le site internet des Chemins de la Philosophie où vous retrouverez toutes les informations musicales et bibliographiques concernant l'émission du jour. Vous pourrez également réécouter et télécharger, podcaster cette émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous demain à 10h donc, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.